Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de La Pierre à Encre, l'émission de Radio Rancière consacrée au haïku, ce petit poème d'origine japonaise, de la taille d'un canif, mais au tranchant plus redoutable qu'un sabre de samouraï. Aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec Dominique Chipot. Alors Dominique Chipot, vous avez déjà entendu sa voix dans cette émission, nous l'avons déjà interviewé pour des livres qu'il a fait paraître, notamment Bachot Seigneur Ermite, qui, à la table ronde, regroupe l'intégrale des haïkus de Bachot traduits pour la première fois en français, aussi pour des publications tout à fait personnelles. Et Dominique Chipot a accepté cette année d'évoquer chaque mois, à travers une chronique, l'évolution du haïku, on va dire la naissance du haïku moderne. Il vous en dira plus tout à l'heure en seconde partie d'émission. Quant à moi, j'attire votre attention sur un livre paru aux éditions Pipa. Il vient tout juste de paraître, Haïku de Bretagne, un collectif de haïku et tanka francophone coordonné par Daniel Duteil, Alain Kerverne et Pierre Tanguy. Je vais lire aujourd'hui quelques haïkus extraits de ce livre qui est remarquablement illustré également. Vous pouvez donc vous le procurer aux éditions Pipa. Il suffit d'aller sur le site www.pipa.fr. Pipa, c'est P-I-P-A. Et tout d'abord, une salve de haïku sur les menhirs de Carnac. De Philippe Massé. Pas au bout de ses peines, tout en haut du menhir, la fourmi. Pas au bout de ses peines, tout en haut du menhir, la fourmi. D'Irène Chaléard. Carnac. Alignement de fourmis au pied d'un menhir. Carnac, alignement de fourmis au pied d'un menhir. Ce haïku de Hélène Duc, qui vient de nous quitter, 100 fois, 1000 fois hélas. Cromlech, de peine harlant, le son gris de la pluie, goûtant des dolmens. Cromlech, de peine harlant, le son gris de la pluie, goûtant des dolmens. De Martine Lenormand. Une marée basse les a laissés derrière elle. Pierre Levé. Une marée basse les a laissés derrière elle. Pierre Levé. Citadelle de Belle-Île, sur le canon brûlant, un papillon blanc. Citadelle de Belle-Île, sur le canon brûlant, un papillon blanc. C'est un haïku de Malouena le Port. De Gérard Dumont. Vieux fortin, sous les feux du soleil, sommeille un lézard. Vieux fortin, sous les feux du soleil, sommeille un lézard. D'Hélène R. Au pied des remparts, mouette en discussion avec la poubelle. Au pied des remparts, mouette en discussion avec la poubelle. De Marie Derlet. Phare abandonné, ses murs de pierre blanche illuminent l'eau. Phare abandonné, ses murs de pierre blanche illuminent l'eau. de Jean Poëcel. Chemin de boue, labouré de pas lourds, solitude du calvaire. Chemin de boue, labouré de pas lourds, solitude du calvaire. De Jacques Poulaouec. Autour du calvaire, plus de bannière, mais une ronde de selfies. Autour du calvaire, plus de bannière, mais une ronde de selfies. De Philippe Massé. Village sans curé, les volets clos du presbytère. Village sans curé, les volets clos du presbytère. Maison de granit. Je me sens comme un des trois petits cochons. Maison de granit. Je me sens comme un des trois petits cochons. De Marie Derlet. Un nouveau haïku d'Hélène Duc. Fontaine de Barenton. Le lent slalom des gouttes sur nos anoraks. Fontaine de Barenton. Le lent slalom des gouttes sur nos anoraks. D'Isabelle Nicole. Jardin de grand-mère. 100 fois on a cherché l'entrée du blocos. Jardin de grand-mère. 100 fois on a cherché l'entrée du blocos. De Philippe Massé. Village natal. Mon vieux chemin passe sous la quatre voies. Village natal, mon vieux chemin passe sous la quatre voies. Un nouveau chapitre de ce livre « Haïku de Bretagne », chapitre intitulé « Tempête d'écume ». Je rappelle que ce livre rassemble donc un collectif de haïku itanka francophone coordonné par Daniel Duteil, Alain Kerverne et Pierre Tanguy. De Didier Olivry, « Crachin breton, les collines de l'Élorne en estampe chinoise ». Crachin breton, les collines de l'Élorne en estampe chinoise. De Claudine Roux. Une corne de brume déchire le crépuscule, le bateau de Belle-Île. Une corne de brume déchire le crépuscule, le bateau de Belle-Île. Pissant près du bar, quelque part et partout, ah, la corne de brume. Pissant près du bar, quelque part et partout, ah, la corne de brume. C'est un haïku de Malo Boissel du Bourg. De Sylviane Dogniaux. Fort vent d'ouest, la voix grise d'une cloche perce le cœur des mouettes. Fort vent d'ouest, la voix grise d'une cloche perce le cœur des mouettes. De Gérard Materne. Vent du large, les mouettes rieuses et ma casquette. Vent du large, les mouettes rieuses et ma casquette. Le Gérard Dumont. Coup de vent. Soudain, trois mouettes traversent mon haïku. Coup de vent. Soudain, trois mouettes traversent mon haïku. De Francine Aubry. Grand vent, ma vieille voisine et son rosier plient l'échine. Grand vent, ma vieille voisine et son rosier plient l'échine. D'Isabelle Cross. Sur cette lande de pluie, seule la lumière des fleurs d'ajonc. Sur cette lande de pluie, seule la lumière des fleurs d'ajonc. De Marité Bretel. Tempête d'écume, sur la falaise du vivier, j'attrape ton chapeau. Tempête d'écume, sur la falaise du vivier, j'attrape ton chapeau. De Chantal Baroche, pluie froide, la rivière lèche le lisier des champs. Pluie froide, la rivière lèche le lisier des champs. Rade de Brest. Si jeune ce soleil qui enjambe le pont. Rade de Brest, si jeune ce soleil qui enjambe le pont. C'était un haïku de Francine Aubry. Je poursuis ma lecture de ces haïkus de Bretagne avec quelques poèmes picorés dans le chapitre « Du sable plein les yeux » de Sylvie Salaune. Hans de Penforn, une barque vivante, l'autre morte. Hans de Penforn, une barque vivante, l'autre morte. Crépuscule, le temps suspendu entre deux coups de rame. Crépuscule, le temps suspendu entre deux coups de rame. C'était un haïku de Isabelle Nicole. De Monique Ginchat. Retour des chaluts au Guilvinec. Les mouettes nous devancent. Retour des chaluts, au Guilvinec, les mouettes nous devancent. De Laurence Fischer, un haïku que j'adore, un de mes préférés du recueil, de Laurence Fischer, matinée d'hiver, les chalutiers ramènent le vent du large. Matinée d'hiver, les chalutiers ramènent le vent du large. De Roland Corbelin, la laisse de mer dans la baie de Saint-Brieuc, un grand champ d'étoiles. La laisse de mer dans la baie de Saint-Brieuc, un grand champ d'étoiles. De Myriam Fresson, marée basse, dans le ciment de l'escalier, un coquillage. Marée basse, dans le ciment de l'escalier, un coquillage. Premier stage de voile, Un élève doit trouver la clé du port. Premier stage de voile, un élève doit trouver la clé du port. Un haïku de Martine Lenormand. Et je terminerai par ce très beau haïku de Sylviane Donniou. Belle île en mer, endormie sur la plage, mes 17 ans. Belle île en mer, endormie sur la plage, mes 17 ans. Voilà, ce sont quelques haïkus extraits de ce très beau livre. Haïku de Bretagne, collectif de haïkus et tankas francophones coordonné par Daniel Duteil, Alain Carverne et Pierre Tanguy. C'est publié aux éditions Pipa, dont vous pourrez trouver le catalogue intégral sur www.pipa.fr. Voilà, je cède la parole à notre ami Dominique Chipot.
L'année dernière, Jean Antonini a évoqué le poète Bachot. Si ce dernier est le père du haïku, Masao Kashiki est sans conteste le père du haïku moderne. Aussi, je vous propose de découvrir la réforme du haïku japonais dans la première moitié du XXe siècle. Une évolution, une révolution même, initiée par Shiki. Auparavant, pour s'imprégner de l'ambiance de l'époque, revoyons quelques traits de l'histoire. Juillet 1853, quatre navires de guerre américains mouillent dans la baie d'Edo. L'amiral Perry, commandant de l'escadre, demande au shogun Tokugawa Yoshinobu, le chef du gouvernement et tenant du pouvoir militaire, l'ouverture de relations diplomatiques et commerciales entre leurs deux pays. Car les navires américains, de plus en plus présents dans l'océan Pacifique Nord pour chasser massivement les baleines ou commercer avec la Chine, ont besoin des ports japonais pour se ravitailler ou réparer leurs avaries. Après quelques hésitations, le gouvernement japonais cède sous la menace et un traité d'amitié est signé en mars 1854, suivi d'un traité commercial en 1858. Progressivement, les grandes puissances occidentales signent des accords similaires. S'ensuit une importante crise politique qui voit, 10 ans plus tard, la restauration impériale. L'effondrement de l'ancien régime et la fin de l'isolation du pays qui durait depuis 1641 favorise la réforme du système politique et entraîne de profonds changements sociétaux et culturels. Les répercussions sont considérables sur le pays et l'influence occidentale se fera sentir jusque dans l'art ou la vie quotidienne. Shiki est né Masaoka Tsunenori le 14 octobre 1867. Shiki est son nom de plume. Il le choisit en mai 1889 quand lui est diagnostiquée une tuberculose osseuse. Il fait référence, non sans humour, à ce coucou dont on dit qu'il crache du sang en gazouillant. Moins d'un mois après la naissance de Shiki, le pouvoir est passé à l'empereur des mains du shogun. Shiki est donc un enfant de l'ère Meiji qui grandit dans un pays en pleine métamorphose. Son éducation va osciller entre l'étude des classiques chinois, dès 6 ans, et la découverte des arts occidentaux, jusqu'à présent interdits, en passant par un intérêt grandissant pour la politique dès 15 ans. À 20 ans, il commence à étudier le haïku avec Ohara Kijo, qui publie son premier haïku, Mushino Neo, Omiwaka Yokuya, Nono Komichi. Je vais, piétinant le chant des insectes, chemin dans les champs. Les cercles de haïku conservateurs ont résisté quelque temps à la vague de modernité de l'ère Meiji, jusqu'au jour où Shiki a commencé à réformer leur art. De juin à octobre 1892, il publie ses premiers propos sur le haïku. Il rappelle tout d'abord ce que nous, occidentaux, oublions parfois. Le mot haïkai, abréviation de haïkai no renga, a désigné les œuvres collectives, renga ou renku, à tendance humoristique, voire vulgaire. Mais après Bachot, ces haïkai sont devenus plus subtils, plus profonds, plus raffinés. Puis dans une livraison de fin juillet, Shiki expose sa théorie sur la disparition possible du haïku. Il dit, sachant que le haïku a un nombre fini de caractères, le nombre de combinaisons mathématiquement possibles n'est pas infini et tôt ou tard, le haïku atteindra ses limites. Cette théorie de Shiki, basée sur de simples considérations mathématiques irréfutables, est jugée révolutionnaire, car jusqu'à présent, les théoriciens prédisaient la mort du haïku du seul fait de sa brièveté, obstacle à l'expression de sentiments complexes, une hypothèse qui reste sujette à caution. Natsukawaya, Ashiyaledo Uma, Mizuwoyaku. La rivière en été, il y a un pont et le cheval passe dans l'eau. Avec ces deux essais, Shiki pose les premiers jalons de sa réforme. Mais c'est à la fin de 1893 qu'il se fait particulièrement remarquer par deux écrits sur Bachot. Nous sommes à l'aube du bicentenaire de la mort de Bachot, le 26 novembre 1694. Les admirateurs qui le vénèrent comme un dieu veulent commémorer cet événement en dressant des pierres gravées de poèmes dans tout le pays et en construisant un mausolée. Dans un article particulièrement ironique du 6 novembre 1893, La splendeur du vieux Bachot, Shiki se moque de cette dévotion excessive et demande ce qui pourrait bien changer entre le 199e et le 201e anniversaire de la mort de Bachot, s'il ne se préoccupe que d'édifier des monuments au lieu de chercher à comprendre le style de Bachot et de son école. Une semaine plus tard, débute la publication de ses bavardages sur Bachot. Il compare les adorateurs de Bachot aux membres d'une secte religieuse, tout en regrettant que l'œuvre du maître soit devenue presque inintelligible, faute de compétences et d'évaluation. Il écrit « Pour apprécier le travail littéraire de Bachot, qui n'est pas parfait, il est nécessaire d'examiner ses poèmes et de ne pas en faire un sujet de religion. » Mais il le fait, il ose, sacrilège suprême, critiquer l'œuvre du grand maître en répertoriant quelques mauvais et bons haïkus. Par exemple, cette adaptation d'une vieille chanson est jugée mauvaise, ou plus précisément indigne d'être un poème célèbre, un haïku. Les pins de Karasaki, poilés de brume, plus que les fleurs. Et il juge beau cet autre haïku de Bachot, lune claire, je tourne autour de l'étang toute la nuit. Auparavant, nul n'avait osé critiquer un haïku, encore moins ceux du maître. Et Shiki s'en explique plus tard dans ses principes du haïkai en 1895. Le haïku est une branche de la littérature, et la littérature est un art. Par conséquent, les critères esthétiques des arts, normes de la littérature, deviennent les critères du haïku. Et d'ajouter, peinture, sculpture, musique, pièces de théâtre, romans et haïku peuvent tous être critiqués selon les mêmes règles. Kaki Nikushi, Bankasa Toru, Aluno Ame. La clôture basse, passe une ombrelle, pluie de printemps. À la suite de ces deux publications, le cercle des Hajin, le Haidan, se divise. La vieille école, celle des conservateurs, s'oppose aux réformistes, la nouvelle école. Les divergences sont d'ordre politique et structurel. D'une part, le haïku de Shiki fait la part belle à la sensibilité, quand la vieille école attache une grande importance au formalisme et à l'érudition. D'autre part, Shiki remet en cause le système d'enseignement du haïku par les coteries, les structures pyramidales, où les disciples rassemblés autour du maître reçoivent un enseignement moyennant finance. Cette dissension s'est poursuivie à la mort de Shiki des suites de sa tuberculose le 17 septembre 1902. Ses deux premiers disciples, Kawagiyashi Ekigoto et Kyoshi Takahama, devenus ses héritiers spirituels, choisissent des voies opposées. À suivre.
Eh bien, dites-moi vivement le mois prochain. Nous allons continuer tout au long de cette année de retrouver chaque mois Dominique Chipeau qui nous parlera donc de la naissance du haïku moderne. Je vous souhaite, en attendant la prochaine édition de La Pierre à Ancre, de passer d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Rancière, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.